Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Troisième livre. Vitiyinkan. Épisode 7. L'esprit embrumé et fébrile, Loon laissa passer une rame en se disant que si effectivement c'était Gus, il avait dû changer à la station d'après pour le rejoindre. Et effectivement, il était là, à la deuxième rame. Loon monta. Ses vieux réflexes de policier lui avaient permis de prévoir ce qui allait se passer. Gus sortit. Il glissa, demain même heure, Solneradis. Le Solneradis est un café au troisième sous-sol, où il pourrait se rendre sans être obligé de porter sa combinaison anti-rayonnement. C'était déjà ça. Pour le connaître, tant pis. Rentré chez lui, Loon dormit pratiquement 24 heures. Il lui fallut se dépêcher pour aller au café. Il se paya un X-Cab, ces taxis un peu plus chers, où on était protégé des rayonnements. Ainsi, il n'eut pas à enfiler sa combinaison. Puis, traverser vite fait la rue et descendre au moins 3. S'installer à une table, ouf, quelques minutes d'avance. Gus arriva, mais il n'était pas seul. Bonjour, Loon.
Bonjour, Gus.
Loon, je te présente Clem, qui brûlait de te connaître.
Bonjour, Clem.
Bonjour, Loon. Nous nous sommes déjà parlé, il y a un peu plus d'un an et demi, si vous vous souvenez. La liaison était évidente. Il avait affaire à l'éco-terroriste qui lui avait raconté l'histoire du cycle de Yom. Alors comme ça, vous brûliez me rencontrer en vrai.
Oui.
Après la transmission de l'histoire du cycle de Yom, c'est l'événement le plus important qui est arrivé dans ma vie. J'avais oublié votre propension à tout ramener au religieux. Est-ce que je peux vous demander quelque chose?
Allez-y.
Est-ce que vous pouvez enlever votre connerre? J'aimerais bien voir votre visage. Ça, c'était inattendu. La dernière fois que Loon avait fait face à cette demande, c'était il y a près de 20 ans. Une jeune fille. De même manière, dans un bar, loin au sous-sol, puis ils étaient repartis ensemble. Elle n'avait d'abord pas prêté attention à la combinaison anti-rayonnement, en plus du connerre. Plus tard, la famille s'en était ressentie. Et qu'est-ce que j'ai donc de si spécial?
Vous êtes le Vitiyinkan.
Devant le regard interrogateur de Loon, Gus haussa les épaules.
Expliquez-moi.
Vitiyin, le destin. Dans une vieille langue d'Asie d'il y a plusieurs siècles. Peut-être que l'expression Vitiyin Sakalan vous parle plus?
Ah oui,
bien sûr, la roue du destin. Tous les enfants ont joué à ce jeu. La vie et la mort, la lumière et l'obscurité, la fortune et le fardeau, la montagne et le chemin, le soleil et la lune, la connaissance et l'ignorance, l'éternité et le néant, le vent et la mer, le fer et le feu. Je m'en souviens encore.
C'est bien. Et vous faites la même erreur que tout le monde.
Vous citez 9 groupes de 2, alors que toute la base de cette croyance repose sur le nombre 3. La Trimurti. Vitiyinkan. Vitiyinkai. Vitiyinsakalam.
3 et non 2?
Oui. Vous avez cité 9 groupes de 2. En réalité, il y a 6 groupes de 3. Par exemple, l'éternité, le chemin et la lumière. Il n'y a pas d'opposition. Que des groupes qui s'associent et qui sont différents.
Et Vitiyinkai, c'est quoi?
La main du destin. Dans toute l'iconographie, c'est l'une des rares qui n'est pas disparue. La main qui tourne la roue du destin. La roue du destin. Vitiyin Sakalan.
Et moi, je suis quoi là-dedans?
Vitiyinkan, l'œil du destin. Le témoin. Vous avez été témoin de ce qui pourrait détruire l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui, sur Los Angeles. Et en ce moment, vous êtes le témoin de ce qui pourrait détruire le monde virtuel, l'autre univers que les humains ont créé, tout au moins le détruire tel qu'il existe aujourd'hui. Le regard interrogateur de Loon à Gus avait peut-être été accompagné d'un froncement de sourcils imperceptible. Gus se sentit obligé de se justifier.
Tu sais comment c'est? On est en contact, on échange des informations.
Ça veut dire que vous savez ce qui est en train de se passer?
Pour ce que vous appelez Coldish?
Bien sûr. Tu imagines que ce qu'il y a à l'intérieur de Dialdon ne fuite pas de l'Iamas?
Donc vous êtes au courant mais vous ne faites rien.
Votre ami Gus n'en sait pas suffisamment pour faire quoi que ce soit. Et moi, ma foi, puisque je suis heureux que la main du destin ait fait tourner la roue du destin sur connaissance, feu et fardeau, la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, dans le monde physique, parce qu'aussi dans le monde virtuel qu'elle s'est inventée. 40 planètes sont en quarantaine, vraisemblablement frappées par des Eredust.
et tout le monde s'en moque sur les centaines de planètes que l'humanité a souillées. Par contre, faire tomber les villes virtuelles, tout est dans les villes virtuelles. Le commerce, les administrations, le lien social. Tous ceux qui partent coloniser de nouvelles planètes, le feraient-ils encore s'ils savaient fouler un pont de cendres? Quand l'humanité ne sera plus une, mais parcellaire, sur des planètes isolées les unes des autres, peut-être qu'enfin l'homme respectera le grand équilibre. J'ai la chance, comme un de mes ancêtres il y a 230 ans, de savoir et de voir de mes yeux les choses se modifier. Lui avait la connaissance et était sur l'ancienne Terre au moment de la grande destruction. Cela n'a malheureusement pas donné un basculement suffisant pour rétablir le grand équilibre. Mais peut-être qu'aujourd'hui nous y sommes. Ce que vous dites est ignoble, les conséquences sont incommensurables. Peut-être, tout comme les dégâts sont incommensurables de ce qu'a fait l'humanité jusque-là. Je vous laisse, je vous ai vu, cela me suffit, dans 230, ou 250, ou 300 ans, quand l'humanité aura repris la place qui est la sienne dans l'univers, mes descendants pourront dire « J'ai eu un aïeul qui a vu le Viti Incan ». Clem alors se lève et dit à Gus, au moment de partir, « Fais ce que te dicte ta conscience, mais souviens-toi que c'est inutile, Lawson nous l'a enseigné. » C'est quoi cette histoire de conscience? C'est qui ce Lawson? Gus se levait. « Moi aussi je dois partir, nous devons tous disparaître. Attends un petit peu avant de sauver l'humanité, ça nous laissera le temps de disparaître pour de bon. Sauver l'humanité. » Oui, c'est ce que me dicte ma conscience. De t'aider à essayer de le faire. Quant à Lawson, tu demanderas à ta mathématicienne. T'es sacrément bien informé. Comme toujours. Et alors je fais comment pour sauver l'humanité? Tu te fais aider par un Philippin, il y a 270 ans, qui a jeté un bout de chiffon à la mer. Si jamais j'en trouve plus, je me débrouillerai pour te faire parvenir l'information. Adieu, et cette fois-ci pour toujours. Loon se repaya un X-Cab pour aller le plus vite possible à Dialden et faire irruption dans la salle où Mérès le regarda de travers en lui disant « Tu devais pas te reposer deux jours ?»« Si, mais faut que je parle à Carmen. » Puis, enfermé dans le bocal, « Tu peux faire une petite recherche pour moi ?»« T'es gonflé, toi. Je sais pas si t'as remarqué, c'est pas vraiment le moment. »« Écoute, Mérès, de temps en temps, il faut faire une petite pause. Ça te changerait les idées ?»« Décidément, toi. Bon, qu'est-ce que tu cherches ?» Un Philippin qui a jeté un chiffon à la mer il y a 270 ans.
Tu te fous de moi?
Non. Pour l'instant, on va dire que ça ressemble à une énigme.
Je me suis dit que ça t'amuserait.
C'est quoi un Philippin? C'est une planète?
Ça m'étonnerait.
Je dirais plutôt un pays. On parle d'il y a 270 ans, juste au moment du démarrage de l'expansion spatiale.
Bon, ok. Je te cherche ça. Vraiment n'importe quoi.
Tu sais où est Nathalie? Elle est partie faire sa pause. C'est donc à la cafétéria que Loon attaqua sa deuxième énigme. Ça te dit quelque chose, Lawson?
Oh bah oui, la théorie de Lawson. J'en venais pas au briefing ce matin, c'est même Mérès qui nous en a parlé.
Mais t'étais pas là. Pourquoi tu me parles de ça?
Moi aussi j'en ai entendu parler. Tu peux m'expliquer?
Oui, bah, si tu veux je te le raconte à la Seban.
C'est bizarre à ce point-là.
Ouah, oh, exagère pas. C'est de la philosophie, du quantique... Et un peu mon domaine de la statistique.
Eh ben, ça promet. Enfin, vas-y pour une histoire à la Seban. Peut-être que ça me permettra de comprendre. Après tout, son histoire de soupe bouillante dans une assiette qui reste froide, c'était pas si bête.
Ok. Alors, la théorie de Lawson, ça part du quantique. Mais voilà, c'est toujours une image. Hein. C'est une armure faite de plein de petites billes, comme un réseau, pour te protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. Le mal, le chaos.
Le mal, c'est quantique, ça?
Non, mais le chaos, plus ou moins. Ah, écoute, je te le fais avec une histoire à la Seban.
Ok, continue.
Donc tu vois, tu as un réseau de billes, et puis à un moment, tu en enlèves une. Et l'objet de la théorie de Lawson, c'est de réfléchir à ce que cela implique. Ce qu'il va arriver, à terme. On parle de quantique, donc on parle de statistiques, et potentiellement, le temps n'a pas d'importance.
Ok.
Beaucoup de gens font l'erreur de se concentrer sur les scénarios de ce qui va arriver à l'armure. Il y a un trou, comment, par exemple, est-ce que le trou va se boucher? Ou pas? Du point de vue quantique, on peut imaginer que les structures se réorganisent. Ce n'est plus la même structure, mais il n'y a plus vraiment de trou. Le réseau est simplement un tout petit peu plus lâche.
ou, un peu comme de la génération spontanée, chaque bille descend un tout petit peu son poids pour générer de la matière, de façon à créer une nouvelle bille à l'endroit où il y avait le trou. Il n'y a de nouveau plus de trou, mais chaque bille est un petit peu plus légère. Ou alors, simplement, il reste un trou. Dans tous les cas, le scénario implique soit qu'il reste un trou, soit que le réseau soit plus lâche, plus fragile, soit que les billes soient plus légères. Donc, le réseau plus fragile. Tu me suis jusque-là ? Jusque-là, ça va. La vraie analyse statistique, elle se fait sur les scénarios qui prennent en compte de quoi on parle. C'est une armure qui te protège du chaos extérieur. Si l'on représente ce chaos comme des billes, peut-être un petit peu plus grosses ou de même taille, qui viennent frapper l'armure pour essayer de la traverser, il y a les probabilités pour que, si jamais il y a un trou, à un moment, une bille puisse passer, en fonction de sa taille, en fonction de sa trajectoire, et de la chance qu'elle a de tomber exactement dans le trou. Ou alors qu'une bille, peut-être un petit peu plus puissante que les autres, arrive à fragiliser le réseau, qui est un petit peu moins dense. Qu'une très grosse bille, en frappant une bille un petit peu plus légère, réussisse à la dégager du réseau et à l'entraîner à l'intérieur. Il y a évidemment aussi tout un tas de scénarios où il ne se passe rien. Dans le premier cas, si jamais il y a un trou, la bille tape à côté, ou elle est trop grosse, ou elle tape dans le trou, elle est petite, mais sa trajectoire fait qu'elle rebondit vers l'extérieur. Tu me suis toujours ?
Oui.
Jusque-là, on a eu le quantique et puis les statistiques. C'est maintenant que vient la psychologie, parce que la théorie de Lawson, évidemment, c'est une théorie humaine. C'est de la psychologie. Et Lawson dit que la psychologie de l'homme, ça va être de toujours chercher le mauvais côté, ce qui va mal se passer. Et donc, que l'on va échafauder de plus en plus de scénarios où les choses se passent mal, et où donc le chaos peut traverser l'armure. Et la théorie de Lawson dit simplement que, aussi peu probable que soient ces scénarios, vu qu'il va y en avoir une infinité, car ce sont les seuls que les hommes vont chercher, au bout d'un moment, dans l'équilibre, forcément, la somme de toutes ces probabilités pour que les choses se passent mal va faire en sorte que les choses se passent mal. C'est la théorie de Lawson. À partir du moment où tu touches à quelque chose de structurant, quel que soit le temps que ça prenne, le chaos finira par l'emporter. Ce que Mérès a appelé ce matin la fin de l'humanité. T'es sûr que ça va ? T'es tout pâle ? Oui, excuse-moi, c'est la fatigue. Je vais manger un peu, ça va aller mieux. Pour la première fois de sa vie, Loon prenait de la hauteur. Une hauteur tellement grande qu'il embrassait l'humanité entière de son regard. Même sur cette histoire d'esclaves transformés en bombes biologiques, il y repensait à cause de Gus, il n'avait pas réfléchi aux conséquences que cela pouvait avoir à l'échelle, on va dire, au-delà de la ville, au-delà de son enquête de simple flic. Là, il se rendait compte effectivement que ce que l'autre illuminé lui avait raconté, et sa dernière phrase, sur la fin de l'humanité, était peut-être entre ses mains. En tout cas que grâce à Gus, il pouvait ne pas se contenter d'être juste l'œil du destin, celui qui observe. Il pouvait faire quelque chose. Et plutôt que d'attendre, bêtement, que Carmen puisse essayer de trouver la solution à son énigme, car lui avait beau la retourner dans sa tête, dans tous les sens, il ne comprenait pas de quoi il retournait, il se remit à sa tâche, à son bureau, entre Seban et Alexia, pour continuer la traque, continuer à passer toutes les villes virtuelles au peigne fin. Pour la première fois, l'IMAS ne se contentait pas des 189 villes virtuelles principales, celles qui avaient plus d'un million d'habitants, plus d'un million de boutiques, de galeries. Non, là, on allait toutes les passer au peigne fin, car il était sûr que le Koldish allait certainement se faire la main sur des endroits où il avait toutes les chances de passer au travers. Pourquoi viser une grande ville virtuelle ? Contrairement, par exemple, au Backlone, qui ne pouvait se déployer que dans la ville qui correspondait à l'endroit où avait été piraté le profil et où la faille de sécurité n'avait pas été corrigée suffisamment vite, là, on avait affaire à une sorte de pirate qui pouvait choisir une cible, n'importe laquelle, et aller jouer sur place. Alors, exceptionnellement, l'IAMAS avait décidé de passer des accords avec les groupes de villes virtuelles de plus petite taille pour avoir le droit d'enquêter. Les conséquences de ce qu'ils avaient découvert étaient tellement énormes que certainement c'est le monde entier qui avait les yeux tournés vers Dialden et tous les autres centres un peu critiques de l'IAMAS. Gus, évidemment, était au courant. C'est sans doute lui qui avait tenu Clem au courant. Mais le grand public, jusqu'alors, ignorait le drame qui se jouait dans les coulisses de ses villes virtuelles préférées. On commençait même à réfléchir à ce que l'on pourrait faire politiquement, et les débats éthiques étaient vifs. Mérès, qui était dedans et n'était pas censé en parler, partageait néanmoins cela avec son équipe. Après tout, si dans un premier temps, la menace était circonscrite uniquement à certaines villes virtuelles, on pouvait très bien laisser les banques ou les assurances payer les dégâts et passer la chose sous le tapis. Personne ne serait au courant, on indemniserait les victimes et on éviterait la panique. Reculer pour mieux sauter, disaient d'autres, ou une astuce pour cacher votre incapacité à mettre la main sur le pirate, ou tout au moins sur le profil qu'il aura créé. Puis l'espoir revint, en tout cas pour Loon, qui sur un signe de tête avait rejoint Carmen. Ta source n'est peut-être pas complètement farfelue.
Oui, si je te disais qui c'est, je m'en doutais un peu. Au début, tu vois, je pensais plutôt à un Philippin qui avait jeté une bouteille à la mer, avec un message qu'on aurait trouvé aujourd'hui. Et puis, une idée comme ça. J'ai regardé comment on disait chiffon en Philippin, la langue de l'époque. Et alors, ça se dit Ankh Basaran.